moi c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bon début de semaine en compagnie des paroles aux auditeurs qui vous proposent, des Radio Okapi qui vous proposent paroles aux auditeurs. Selon le programme des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, la RDC est identifiée comme le pays le plus touché par la malnutrition chronique d'enfants dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec un taux de prévalence de 43%. Ces chiffres ont été rendus également publics dans les résultats définitifs de l'enquête par GRAP à indicateurs multiples 2010. Que proposez-vous pour faire face à cette montée des malnutrition? Nous en parlons avec le docteur Mukalenga Richard, spécialiste en santé publique, entrepreneur agricole, options biotransformation des produits alimentaires. Titi Mputu, Lydie Kachala, Jean-Claude Siala sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot Elameji et Nicole Ngaka, la supervise. Vous avez des réactions, propositions et points de vue, appelez-nous au 081-890-6315, mais aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Pour participer à Parole aux Auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
43% d'enfants souffrent de malnutrition chronique en RDC, selon l'UNICEF, mais ces chiffres également figurent dans le rapport rendu des résultats définitifs de l'enquête par GRAP à indicateurs multiples 2010, rendu public au mois de juillet dernier, une enquête menée par le ministère du Plan avec l'appui de l'UNICEF, des UNFPA, OMS et d'autres partenaires. Il s'y est de rappeler que la malnutrition fait aussi beaucoup des victimes sur terrain, comme ce qui s'est fait dernièrement, c'est à Isangi, en province orientale, où une dizaine d'enfants de 0 à 5 ans sont décédés de malnutrition aiguë en l'espace de 2 semaines, je le disais bien. Cela a été rendu public par les ONG, les centres de prise en charge de malnutrition, c'était le jeudi 1er novembre dernier. Signalons que ces enfants décédés font partie de 200 cas de malnutrition enregistrés dans ces territoires. Ces cas peuvent être aussi enregistrés, que ce soit au Kassai, au Katanga, dans le Bandundu, au nord et sud Kivu, à l'Équateur, même à Kinshasa. La malnutrition touche beaucoup d'enfants à travers le pays, 43%. Quelles sont les pistes des solutions aujourd'hui qu'il faudrait mettre en place entre vous et bien sûr les pouvoirs publics pour faire face à cette montée des malnutrition? Vous pouvez réagir bien sûr au 081-890-6315 pour intervenir. Nous avons déjà en ligne Dr Mukalenga Richard. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Pierrot, bonjour à tout le monde.
Vous êtes...
Bonjour aussi à ceux qui sont frappés de malnutrition, parce que c'est une calamité qui n'est pas propre à la personne vivant en RDC. Mmh. Quand nous considérons la richesse du pays en pluie, la richesse du pays en forêt et en autre végétation, et la richesse du pays en cours d'eau, recelant et les crevettes, les poissons, etc.
Voilà, et on ne peut pas, oui. Mmh.
D'autres algues du genre Spiruline ou Nzaoula. Merci.
Mmh. Et docteur, vous êtes spécialiste en santé publique, mais vous êtes très concentré aujourd'hui comme entrepreneur agricole dans l'option biotransformation des produits alimentaires. Alors, quelles sont aujourd'hui les causes de cette montée des malnutrition à travers le pays aujourd'hui, docteur?
Bien, merci beaucoup. Dans ma propre réflexion, j'ai épinglé environ 8 causes. La première cause, c'est la sous-production alimentaire qui contraste avec les potentialités du pays en pluie, c'est-à-dire en eau, et en engrais verts qui sont les feuilles. Deuxième cause, ce sont les préjugés par rapport au travail agricole. Les gens répugnent ce travail, les gens répugnent ceux qui font ce travail. Troisième cause, c'est la paresse de la population. Quatrième cause, c'est la mauvaise nutrition liée à la mauvaise combinaison alimentaire constatée dans les marmites, les assiettes des gens. Troisièmement, et cinquièmement, la sous-information et la mauvaise information reçue des autres qui déroutent la population dans ses habitudes alimentaires. Sixième cause, c'est l'absence d'une politique nationale de production agricole par objectif. Septième cause, c'est l'absence d'une politique nationale d'encouragement des producteurs agricoles. Parce que les médailles de mérite, on les donne qu'aux politiciens, même ceux qui ont fait la rébellion, qui a tué beaucoup de gens. Huitième cause, ce sont les préjugés sur les produits alimentaires de production locale. Les gens préfèrent les importer, même si ce sont des produits avec les hormones additionnelles qui entraînent des problèmes de santé à la population.
Docteur, voilà, en vous suivant, vous avez donné huit causes, c'est-à-dire que les réponses à apporter à ces problèmes de malnutrition doivent aussi se regrouper en termes de ces causes. Vous avez parlé de la sous-production alimentaire, les préjugés par rapport au travail agricole, bien sûr, c'est un problème aujourd'hui. Le problème de la paresse, le problème de mauvaises habitudes nutritionnelles, tout cela, mais il y a aussi cette malnutrition qui est liée aux maladies. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup de territoires de la RDC avec le développement de la rougeole, on voit aussi ces maladies qui sont à la base de cette persistance des dermales nutrition, docteur.
Oui, avec beaucoup d'humilité, j'ajoute les maladies. Vraiment, j'accepte ça, qu'on ajoute les maladies. Ça peut être les maladies telles que vous avez cité la rougeole, ça peut être aussi les maladies du tube digestif, et ça peut être aussi d'autres types de maladies qui empêchent la personne de bien s'alimenter.
Mais, oui, quand on parle de la malnutrition chronique, là, pourrions-nous dire que c'est cela lié aussi à toutes ces maladies? Parce qu'en cas de la rougeole, par exemple, on peut faire, bien sûr, une malnutrition qui peut peut-être être aiguë. C'est à vous de l'expliquer bien auprès des auditeurs. Mais quand elle devient chronique cette fois-ci, c'est que c'est un problème qui s'installe d'une manière permanente dans la vie de la population.
Oui, la chronique, c'est celle qui est la malnutrition habituelle. On est habitué avec ça. Je prends à titre d'exemple, quelqu'un qui s'alimente pendant un an, le matin il a son thé rouge avec son pain, donc il ne prend que un stimulant, une drogue avec du sucre. Le pain c'est le sucre aussi. Là dans le pain il y a 1,2% de protéines. Voilà comment ce monsieur sera bourré de sucre et sera carencé en protéines. Et puis, il n'a pas de fer aussi, parce que lui, il n'aime pas les légumes, il prend dans le coin de rue ses arachides avec son pain comme ça. On a connu des gens comme ça. On a connu des familles comme ça qui donnent des aliments comme ça aux enfants. Voilà, il est habitué dans le temps, pendant au moins, donc au-delà de 6 mois, avec cette alimentation. Ce qui est aigu, c'est après une maladie, dans les 2-3 semaines qui suivent là, l'enfant se présente avec un mauvais état nutritionnel. Mais la chronique, c'est que on est habitué comme ça. Et les gens, quand vous demandez, mais pourquoi vous alimentez comme ça, ils disent, nous sommes habitués comme ça. En lingala, on dit,
voilà. On vous garde en ligne le temps d'écouter les auditeurs, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Ils peuvent nous dire surtout les mesures qui sont prises dans leur milieu pour lutter contre cet état de malnutrition. Vous êtes à Kananga, par exemple, on nous appelle patient. Qu'est-ce qui est fait là-bas? À Kamina, qu'est-ce qui est fait? Dans le Bandundu, à Goma, au Nord Kivu, partout, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre la malnutrition? Nous allons explorer toutes ces pistes et solutions. Mais ce que vous pensez aussi qui doit être fait aujourd'hui pour faire face à cela, nous allons partager tout cela ensemble avec vous. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Patient, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, patient. Faisons d'abord un état des lieux. Est-ce que la ville de Kananga est-elle concernée par des cas de malnutrition?
Oui, mais je voulais aussi intervenir concernant le milieu que je vis. Bon, disons, je suis dans la province de Kassai-Occidental, dans la ville de Kananga, mais précisément au territoire de Demba, à Zapo, c'est là où je suis. Mais bon, je voulais un peu souligner les effets, c'est-à-dire, en quelque sorte, premièrement, il y a d'abord la pauvreté et les non-informations concernant le cultivateur. Ça dit quoi? Comme l'invité vient de le souligner que la population c'est avec l'habitude, par exemple, donc il cultive le maïs, mais vous remarquerez que pendant la période des récoltes là, ils vendent tous les maïs, mais il reste ne fût qu'avec les maniocs.
Mm-hmm.
Imaginez-vous quand vous prenez les maniocs avec les feuilles des maniocs, vous donnez à l'enfant, c'est ce qui cause peut-être la malnutrition. Une autre cause plutôt, c'était du fait que normalement une personne a besoin de manger trois sortes d'aliments par jour. Nous avons aliments énergétiques, protecteurs, tout comme producteurs.
Mais revenons à ce qui se fait à Zapo, là où vous êtes, dans le territoire de Demba, où vous vivez patient. Vous dites que l'habitude là-bas, c'est que les gens cultivent le maïs. Par exemple, quand on récolte au mois de décembre, vous devrez vendre ces maïs vers la ville de Kananga.
Oui.
Et il reste même vide et ils mangent le foufou à base de manioc. Et quand on prend le foufou à base de manioc, on donne à l'enfant avec le fait des manioc. Il n'y a plus rien qu'on peut peut-être attendre. C'est ce que vous dites. Mais alors, concrètement, y a-t-il de gens qui se mettent sur terrain pour sensibiliser, pour qu'il y ait ces changements d'habitude à Zapo, que les gens puissent acquérir des bonnes habitudes? Est-ce que cela se fait sur terrain?
Oui, bon. D'abord, quand je vous parle moi-même, d'abord, je suis infirmier, hein. Je travaille toujours à Zapo ici.
Oui.
Oui, mais ce qu'on fait, on a les leaders communautaires, il y a des relais communautaires, ils descendent sur le lieu et puis ils donnent les conseils. Bon, quand même, les gens essaient un peu d'appliquer. Vous savez, si une personne est mal informée, et il faut que vous la portez une information fiable concernant l'alimentation de l'enfant, tout comme toute la famille, quand même, cela donne un peu de bonnes réponses. Bon, moi, je peux vous dire qu'auparavant, il y avait beaucoup de cas de malnutrition, mais pour ce moment, depuis qu'on a commencé à donner des conseils, grâce à l'appui de l'ASF qui nous avait procuré avec l'aliment prêt à consommer, ce qu'on appelle les plempinutes, là.
Mm-hmm.
Pour ce moment, c'est quand même bien, la population est bien.
Merci beaucoup, patient. Vous êtes à Zapo, c'est dans le territoire de Demba. Vous êtes corps soignant. Vous dites qu'il y avait beaucoup de cas de malnutrition, mais depuis, avec le programme que vous avez avec l'ASF, l'action contre la faim, vous êtes mis à sensibiliser, enfin bien sûr, qu'infirmier la population. Et les gens ont compris, au lieu de vendre tous les maïs et de pouvoir consommer seulement le manioc aujourd'hui en équilibre, vous vous rendez compte qu'il y a une diminution des cas de malnutrition à Zapo. C'est à Demba, dans le territoire de Demba au Kasaï occidental. Merci beaucoup de ces témoignages. Ilunga, vous êtes à Kamina, dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Voilà. Avez-vous aussi des problèmes aujourd'hui à Kamina, des cas de malnutrition dans votre milieu?
Oui, nous avons ces cas-là. J'ai entendu beaucoup des intervenants attaquent beaucoup au gouvernement. Mais moi, je crois que le problème est tombé à nos parents aujourd'hui. Vous trouvez ici à Kamina un papa qui n'a plus de boulot, il est peut-être un cordonnier. Par jour, il gagne peut-être 1000 francs. Ce n'est très bien. Monsieur le journaliste, moi, je crois que le problème, c'est quoi? Le taux de natalité dans le sens, monsieur le journaliste. Vous trouvez un papa. Dans sa maison, il est peut-être dans un bicoque avec 10 enfants, avoir même 15 messieurs journalistes, avec ces milliers de misérables messieurs journalistes, avec ces 1000 francs-là qu'ils gagnent par jour, comment il va nourrir leurs enfants, messieurs journalistes. Je demanderai au gouvernement de lutter contre les taux de natalité, messieurs journalistes. Voilà un peu ma contribution.
Merci Ilunga, vous êtes à Kamina. Pour vous, le problème aujourd'hui, c'est les taux de natalité qui est très élevé. Vous avez dans l'exemple à Kamina, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, peut-être qui se débrouille dans la cordonnerie, mais vous vous rendez compte qu'il a 10 jusqu'à 15 enfants, comme vous l'avez dit, mais dans ces conditions, on n'a pas d'emploi. comment va-t-on s'occuper de ces enfants? C'est ce qui favorise aujourd'hui la malnutrition. Et pour vous, vous pensez que la lutte contre la malnutrition passe aussi par le problème de l'encadrement des natalités, de la réduction des taux des natalités? Merci beaucoup, Ilunga, de cette proposition des Kamina. Théodore, vous êtes en Mbujimayi au Kasaï oriental. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous avez suivi, les amis, il y a notre ami de Demba, lui parle de la sensibilisation par rapport au changement des habitudes alimentaires avec les gens qui vendent tout le maïs et qui ne restent qu'avec le manioc, c'est un problème. Mais notre ami de Kamina, lui, pense que le problème aujourd'hui passe aussi par la réduction des taux de natalité parce que c'est un problème, les gens n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas du travail et ils ont beaucoup d'enfants à nourrir, ce qui devient un véritable casse-tête. Quel est votre point de vue, Théodore, ce qui doit être fait concrètement, même en Mbujimayi où vous êtes, pour lutter contre la malnutrition?
Oui, pour moi, cette montée de la malnutrition s'explique par la pauvreté alimentaire. Pour faire face à cette montée, il faut augmenter la supplantation en vitamine A de routine dans les hôpitaux, augmenter le suivi pour la croissance des enfants dans les centres de santé. Il faut aussi qu'il y ait la présence des nutritionnalistes dans tous les centres de récupération nutritionnelle, la suffisance aussi des médicaments essentiels dans ces centres de nutrition, prendre à charge financièrement les coûts de soins aux enfants malnutris, et aussi disponibiliser des réserves alimentaires dans nos provinces, en milieu urbain et en milieu rural. Alors c'est ainsi que je disais pour le Kassai oriental, cette pauvreté monétaire. La province du Kassai oriental est dotée d'énormes richesses minières, mais elle apparaît aujourd'hui comme la province la plus pauvre du pays. En effet, ça fait mal, ça fait mal. Nous allons sortir par où? Quand la nutrition, ça peut se faire au niveau des centres de santé qu'on sort. Mais aujourd'hui, la malnutrition, c'est fait de parcelle à parcelle. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, les diamants sont épuisés, tout est bloqué. Vous circulez, vous trouvez les gens maigres. Vraiment, c'est déplorable. Nous interpellons le gouvernement national.
Oui, Théodore, vous dites qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de diamant aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a ces problèmes, vous avez donné les mesures, c'est par rapport aux enfants qui souffrent déjà de malnutrition. Mais revenons en amont, qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour qu'on ne puisse pas arriver à tous ces cas de malnutrition? Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de diamant, on sent que c'est difficile en Mbujimayi, mais pensez-vous que les gens doivent interpeller le gouvernement national pour qu'il fasse quoi? Et concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent faire localement pour faire face à cette situation et surtout pour prévenir? Théodore.
Ah oui, c'est que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait la suffisance des médicaments essentiels dans les centres de nutrition, prendre aussi en charge financièrement les coûts de soins des enfants malnutris, et puis pour la finalité, disponibiliser des réserves alimentaires dans nos provinces en milieu urbain, tout comme en milieu rural.
Merci beaucoup, Théodore. Il faut aussi disponibiliser les réserves alimentaires hein, en milieu urbain, tout comme en milieu rural. Docteur Richard, vous êtes avec nous. Vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Hein. Il y en a qui sont revenus sur plusieurs propositions. Il y a Théodore qui parle des réserves alimentaires. Il y a Ilunga qui parle aussi des taux de natalité. Il y a Patient qui parle de la sensibilisation. Alors, toutes mesures doivent être conjuguées hein, pour qu'on puisse y parvenir. Mais concrètement, comment on peut procéder pour conjuguer toutes ces propositions, tout ce qui a été proposé par les auditeurs? Comment ça peut se faire sur terrain, Dr Richard?
Bien, merci beaucoup. Voici ce que je peux leur apporter comme soutien. En ce qui concerne, par exemple, le taux de natalité élevé, je crois que nous sommes dans un pays qui prône la natalité responsable, donc la procréation responsable. Quand quelqu'un produit, comme notre ami avait dit, 15 enfants, qu'est-ce qui lui empêche d'avoir autour de sa case la production alimentaire? C'est ça le problème de paresse. C'est ça le problème de sous-information. A-t-il pris contact avec les services de l'agriculture, de sa juridiction, pour demander par exemple des semences et d'autres intrants? C'est ça le problème. Pour ce qui est de notre ami de Ndemba au niveau de Koba ou Koba.
Des impôts.
Oui, nous disons ceci. Il faut aussi que la population introduise des innovations. Il ne faut pas rester dans le maïs, parce qu'on est dans le Kassai. Introduisez aussi le sorgho, les ignames, le millet, etc. Pour ne pas être en cours de stock alimentaire au niveau des cases. Voilà. Il faut aussi introduire
des denrées alimentaires du genre Kika Lakassa. C'est pas parce qu'on est kassaïen, on ne peut pas prendre ça. Il faut aussi introduire le soja, etc. Donc, il y a aussi l'insuffisance sur le plan de l'encadrement de la communauté par les personnes attitrées. Voilà. Pour notre ami de Kamina, je crois aussi que la population doit savoir s'adonner à la production agricole.
Mmh.
Réaliser les stocks alimentaires. Qui va réaliser ça? Je crois que les stocks alimentaires, les meilleurs sont réalisés au niveau des maisons. Et puis, si on a des entreprises agricoles dans le coin, on peut le réaliser comme ça. Mais on ne peut pas les réaliser sans être organisé. Donc chez nous ici, quelle est l'entreprise qui organise ça? Nous voyons par exemple d'autres producteurs agricoles étrangers nous amener le riz de Bumba dans leur magasin. Et que font les Congolais? Voilà. Donc, sans parler de moi, mais je dis ce matin, avant que je sois dans le bureau où je suis en train de vous accompagner, j'ai récolté 4,5 kg d'épinards ce matin, plus ou moins 6 papayes de ma parcelle. Alors, posez-moi un peu la question, d'où est venue ces choses? Je sais que mes voisins, le plus souvent, m'insultent. On dit, ça c'est quel docteur? Il vit comme un paysan. Voilà. Voilà le Congolais comment nous sommes.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait briser aussi ces préjugés. Il faut beaucoup de sensibilisation pour à ce que les gens comprennent. Quand ils ont de l'espace, il faut profiter. Mais quand on regarde aussi la ville de Kinshasa aujourd'hui, quelqu'un achète une parcelle avec de 20 mètres, par exemple, sur 40, sur 25, il en fait autant de maisons. Il faut autant de maisons à l'intérieur pour mettre des locataires. On a un problème sérieux d'espace se pose aujourd'hui. Alors, il faut beaucoup de sensibilisation sur ça.
Je ne coupe pas la parole, mais je dis aussi que le service de l'urbanisme, de l'horticulture urbaine et périurbaine, qui est ici, à Kinshasa, au niveau de TP, première rue d'Irandos, fait la promotion de la culture au niveau des toitures. Aucun Congolais ne fait ça. J'ai même suivi un documentaire parlant de l'utilisation des vieux pneus comme matériel pour mettre un peu de terre et mettre cet équipement sur les toitures et produire à manger. Que font les Congolais? Il y a même un expert qui est passé dans ce service que j'ai cité, qui a survolé la ville de Kinshasa en hélicoptère. J'avais suivi ses conclusions. Il a dit, le Congolais est paresseux. Deuxièmement, les toitures des maisons des Kinois sont vides pour rien. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose en amont avant d'attendre que cette malnutrition puisse aujourd'hui s'installer.
Notre faute qui a parlé de la vitamine A qu'il faut donner à nos enfants.
Il faut c'est
honteux de réclamer ça. Parce que nous avons l'huile de palme. Voilà. Nous avons l'huile de palme. Nous sommes en train de faire la promotion d'un palmier pour donner à nos enfants à domicile la vitamine A. Donc un palmier par parcelle. C'est possible. J'ai un document que le professeur Mpiana de l'Université de Kinshasa, Faculté des Sciences, m'a remis sur la lutte contre la carence en vitamine A à Sri Lanka. Ce pays a fait reculer la carence en vitamine A seulement en reboisant en manguier. Et chaque enfant avait comme mot d'ordre 3 mangues par jour pour aller à l'école. Une mangue en entrant en classe, une mangue à consommer pendant la récréation et une mangue à consommer en rentrant à la maison. Et ils ont fait reculer la carence en vitamine A. Le Congo, avec ce que nous avons comme pluie, comme terre vide, voyez un peu entre Kinshasa et Madimba, comment c'est vide. Nous allons réclamer la vitamine A auprès de qui?
Voilà, tout dépend de quelle manière on définit notre politique. On vous garde en ligne 081-890-6315. C'est le numéro d'appel. Nathan est à Colusi, Roger est en Bandaka. Nous allons vous accorder la parole, monsieur, pour donner votre point de vue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces taux de malnutrition? En RDC, 43% d'enfants souffrent des malnutrition chroniques. Il faut quand même des mesures dans nos milieux. Ce qui doit être fait, c'est quoi pour freiner tout cela? Nous en parlons avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nathan, vous êtes à Colésie dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi le cheminement de cette émission. On peut dire aujourd'hui, s'il faut faire les statistiques, on a déjà les chiffres, que le problème est sérieux. Il touche presque toutes les provinces. Mais ce qui est aussi important pour nous, c'est de pouvoir dégager les pistes et les solutions pour faire face à cette montée des malnutritions. Vous êtes à Colésie. De par l'expérience de votre milieu, qu'est-ce qu'il peut être fait à Colésie pour lutter contre la malnutrition?
Bon, merci, monsieur le journaliste. Bon, nous disons d'abord merci à monsieur l'invité. Bon, on a suivi tous nos précédents. Bon, maintenant, notre préoccupation, en effet, on a suivi la théorie de monsieur l'invité, mais il a donné une grande théorie qu'il y a 4-8 causes qui favorisent cette malnutrition ici au Congo. Mm-hmm. Maintenant, ma préoccupation, en effet, eux connaissent ces causes. Pourquoi ils ne luttent pas contre ces causes pour prévenir, mais l'organe qui est chargé de la malnutrition est là pour sauver les gens qui sont déjà mal nourris, plutôt qu'à garantir ou qu'à protéger les gens pour qu'ils ne soient pas mal nourris. Pourquoi cela? Et s'il y a déjà des procédures qui sont en cours pour protéger cette fréquence de la malnutrition au Congo, qui nous donne aussi les preuves. S'il y a une preuve qui montre qu'il y a les procédures qu'on a pour lutter contre ces malnutritions, plutôt que qualité aux gens qui sont déjà mal nourris.
Voilà, merci Nathan.
Pour prévenir. Okay.
Mm-hmm. Oui, Nathan vous dit qu'il invite à donner 8 causes, ce qui veut dire on connaît déjà les causes, mais alors si on connaît les causes, pourquoi ne pas définir déjà les politiques tenant compte de ces causes pour lutter efficacement contre la malnutrition plutôt qu'attendre quand les gens sont déjà là dans ces conditions qu'il faut intervenir? Et vous lui demandez aussi aujourd'hui qu'est-ce qui est fait concrètement en RDC dans la lutte contre la malnutrition? C'est la question que vous lui avez posée. Quels sont les signes souterrains qui montrent qu'on s'occupe de cela? Roger, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Mégie, bonjour.
Nous vous écoutons, Roger. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises aujourd'hui en Mbandaka pour lutter contre la malnutrition?
Merci beaucoup pour la parole. Bon, vous savez, en Mbandaka, nous sommes en plein forêt équatoriale. Si chacun de nous pouvait au moins aménager un potager dans son domicile pour essayer un peu de trouver ne fût-ce que quelque chose pour...
Voilà, là on vient de perdre Roger, il dit qu'ils sont en pleine forêt équatoriale, mais c'est au moins aussi une sensibilisation. Il pensait que si chacun au moins pourrait faire quelque chose, prendre conscience, d'aménager même un potager autour de sa gaz, de sa parcelle, de sa maison, on pouvait peut-être parvenir à résoudre ces problèmes de malnutrition. Docteur Richard, on se tourne vers vous, mais nous avons un problème sérieux aujourd'hui quand on écoute les auditeurs, même quand nous regardons cette chanson de tous les jours, les potentialités de la RDC, on peut nourrir la moitié de la population, les un quart de la population mondiale, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais cet auditeur s'inquiète parce qu'il dit, vous connaissez, vous qui êtes spécialiste, vous connaissez ces causes, mais il ne voit pas des actions concrètes sur terrain pour parvenir à aider les gens en amont à combattre, à prévenir les cas de malnutrition.
Oui, il a raison. Mais il n'a pas totalement raison. Nous connaissons les causes avec lui. Vous savez que un président américain avait dit à son peuple, c'était John Kennedy, c'est bien de réclamer ce que l'État peut faire pour vous. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que vous pouvez, vous, faire pour votre... C'est ce que Kennedy attendait. Que les gens s'organisent. C'est le vocable qu'on nous avait fait mettre, donc on nous a mis ce vocable dans la bouche par Mouzé. Il a dit, prenez-vous en charge. Par des actes concrets, ça signifie quoi? Que les individus, dans leur parcelle, dans leur rue, dans leur commune, s'organisent. Que la production agricole soit le problème du chef de rue, du chef de quartier et du bourgmestre. Qu'ils aient aussi l'habitude de faire l'évaluation, parcelle par parcelle, denrée alimentaire par denrée alimentaire. Si nous procédons comme ça, comme j'ai dit ce matin, j'ai récolté 4,5 kilos d'épinards. Mais si la rue récolte comme ça par parcelle, mais nous pouvons faire beaucoup de choses. Ok? Alors, ça c'est un. Deuxièmement, il faut aussi que cette évaluation nous pousse à nous dire est-ce que nous sommes dans le bon ou pas. Quand nous sommes dans le bon, nous maintenons le bon en nous disant de faire mieux afin de réaliser les stocks alimentaires. Quand nous sommes sur une mauvaise pente, nous disons nous devons réaménager nos manières de travailler. Mm-hmm. Je donne un petit exemple. On a lancé l'année agricole par le Premier ministre que je salue. Mais les agriculteurs ont-ils une évaluation de la production agricole passée? Je ne pense pas. Vous verrez tout le monde aller dans la production de manioc. C'est très bien. Mais quel manioc? Bien traité pour la population ou non bien traité? Parce que le manioc non bien traité produit ce qu'on appelle les TDCI, les troubles dus à la carence en iode, avec toutes les panoplies des maladies que nous connaissons. Goitre, naissance des enfants nains et crétins, etc., etc. Est-ce qu'on a fait l'évaluation pour dire, nous avons produit l'année passée autant de tonnes de manioc, il nous manquait autant de tonnes de niébé pour faire l'équilibre, afin que la population ne soit pas dans la carence protéino-énergétique, par exemple. Mais non, les gens n'ont pas. Ils sont allés comme ça, sans faire un bilan. Est-ce que la population se rend aussi compte que aujourd'hui, le manioc contient peu de protéines par rapport aux ignames pour faire la promotion des ignames comme nous le faisons? Les gens me disent, mais toi tu es dans les ignames encore, pourquoi? Je dis, mais dans les ignames vous avez tout. Vous avez même le phosphore pour la croissance qualitative et quantitative du cerveau. Mm-hmm. Est-ce que nous travaillons comme ça? C'est ça. C'est ça encore le problème.
Voilà, ça notre ami,
par exemple de Mbandaka, c'est bien qu'ils disent qu'il est dans la région équatoriale. Mais je connais un collègue, Dr Mboui Gisèle, que je salue, de la direction de lutte contre la maladie. Elle était à Bouindé. Mais elle a dit, docteur, j'ai souffert. À Bouindé, il n'y a pas de production alimentaire, malgré les cours d'eau, malgré les forêts. Donc, quelque part, même si on est dans un matelas de forêts, de cours d'eau aussi qui arrosent ces forêts matelassées d'humus, mais quelque part, nous sommes paresseux. Nous devons reconnaître ça. Nous devons reconnaître ça pour aller de l'avant. C'est une évaluation de dire que nous sommes paresseux. Voilà.
Voilà, c'est tout cela aussi. Mais vous savez, les gens eux-mêmes, s'il n'y a pas de leaders d'opinion aussi, c'est ça aussi le problème. Des leaders d'opinion, des gens qui peuvent canaliser l'énergie des autres, des fois, ça manque. Quelqu'un peut avoir l'initiative, il n'a pas d'information, il a de l'espace. Mais bon, il est là, il le regarde. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait des leaders, les gens qui s'élèvent quand même pour aller à la base, pour sensibiliser les autres, pour canaliser leurs énergies, pour leur montrer ce qu'il faut faire. Ça aussi, ça fait défaut.
Oui, les leaders d'opinion n'ont pas raison. Parce que issu de quel média? Moi, je débourse parfois de ma poche ce que je peux donner à ma famille pour faire des émissions. Et lui, leader d'opinion, il suit quoi? Il suit les petites filles qui dansent au niveau de nos TV en petites culottes ou il suit les informations pour le développement. Ça aussi est un problème. C'est aussi le problème des leaders d'opinion. Ils suivent quoi? Merci.
Mardoché est en Boujba et Jacques est ici à Kinshasa. Mardoché, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous avez suivi à cette problématique aujourd'hui. Quand on parle de la lutte contre la malnutrition, vous savez que beaucoup de personnes se concentrent bien sûr sur les centres de nutrition. Il faut amener les enfants dans ces centres, on leur fait de la bouillie, on leur donne des biscuits et tout ça. Mais pourtant, ce sont des solutions qui se présentent quand il y a déjà le problème qui se pose aujourd'hui. Mais les pistes de solutions que nous sommes en train aujourd'hui d'explorer ensemble avec vous, c'est aussi en amont, parce qu'on parle de cette malnutrition chronique, elle s'est déjà installée dans notre société. Alors, en amont, qu'est-ce qui doit être fait? Vous êtes en Boujima et on a suivi les difficultés qu'après présentées par Théodore de Mboujima et par rapport à ce que cela représente aujourd'hui et comment faire face à tout cela. Mardoché, quel est votre point de vue?
Ok, merci beaucoup Pierrot. Je m'en vais saluer d'abord l'invité et tous les auditeurs de la radio Okapi qui les suivent maintenant. Alors, sans plus tarder, je vois très bien que le sujet soulevé aujourd'hui par Radio Okapi, c'est un sujet très capital car il parle de la santé publique. Alors, comme ce sujet touche la santé publique, moi, je m'en vais déjà proposer quelques solutions à ce sujet ou à ce problème qui est devenu maintenant un grand fléau. Alors, la meilleure façon de faire les choses, c'est d'abord au niveau des structures sanitaires
organiser ce qu'on appelle quand le maman vient à la consultation, surtout soit à la consultation prénatale, soit à la consultation préscolaire, que les responsables sanitaires puissent quand même organiser des sujets pour éduquer les mamans sur ces matières-là. Parce que vous allez vous rendre compte ici, Pierrot, avec moi, vous verrez une famille dont la maman ne sait absolument rien, le papa également. La maman fait se débrouiller à vendre de l'eau sur les artères de la ville. Mais dans cette famille-là, vous allez trouver plus de 10 enfants, 15 enfants. Et le soir-là, les enfants vont se réunir avec 4 ou 5 boules de fufu pour dire, en tout cas, nous avons mangé. Qu'est-ce qu'ils ont mangé réellement qui peut contribuer quand même à leur santé? Donc, au cas contraire, on est en train de détruire nos enfants au lieu de bien les faire mourir. D'ailleurs, il y a encore un autre problème, l'espacement de naissance. Ici, chez nous, les gens mettent au monde comme les chenilles Piro. À ce moment-là, quand un enfant a une année, il a une autre grossesse.
Mm-hmm.
Un enfant a une année, quelques mois, une autre grossesse. Comment est-ce que l'enfant, l'autre, là, va vivre? Il va souffrir de ce qu'on appelle la boulimie. Bientôt, là, c'est le cochon-corps et le marasme qui s'installe. D'où la faute incombe aux responsables sanitaires. Quoique le docteur peut nous donner les 8 causes qu'il a énumérées, mais la faute incombe d'abord aux responsables sanitaires. Ce sont eux qui doivent d'abord éduquer les mamans à la CPN et à la TPS. Ça, c'est un. De deux, la faute incombe encore au gouvernement que nous avons. Bientôt, là, le gouvernement Matata Tampone nous a dit qu'il va faire ce qu'il va améliorer le sort de la population. Mais les gens souffrent du jour au jour, Pierrot.
Mm-hmm.
Ça, c'est deux. Troisièmement, nous allons attaquer nos peuples. D'ailleurs, on est paresseux. Nous avons le terrain vide, là où on peut aller cultiver, faire des champs. Mais les gens ne font pas les champs. Vous verrez même, comme ici à Mujima, si vous partez au rond-point, au rond-point, vous allez voir le jeune qui sionne partout là, qui ne font sûrement rien. Mais ces gens-là doivent aller quand même faire les champs pour ravitailler.
Mm-hmm.
Donc, la faute incombe premièrement aux responsables sanitaires, de deux, au gouvernement, troisièmement, à nous aussi, parents.
Voilà, merci beaucoup Martoché. Beaucoup de problèmes aujourd'hui, hein. La lutte contre la malnutrition, et les responsabilités sont partagées. Il y a au niveau de structure de santé, il faudrait beaucoup plus d'éducation, de sensibilisation auprès des femmes qui viennent pour consulter, soit pour la CPN, soit pour la CPS, hein, qu'il faudrait aujourd'hui les sensibiliser sur ces problèmes de naissance responsable, comme l'a dit le docteur Richard. Mais il y a aussi le problème de l'amélioration des conditions de vie de la population par les pouvoirs publics, mais les efforts personnels aussi des gens pour l'agriculture avec tout ce que nous avons comme espace aujourd'hui. On ne peut pas se plaindre, il faudrait que les gens puissent prendre conscience de tout cela. Jacques, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Piro. Je suis très heureux de vous capter aujourd'hui.
Mm-hmm.
Alors, moi, je ne voudrais pas redire ce que les autres ont dit.
Oui.
Je vous dis, j'ai une expérience, je suis arrivé en 1995. Donc, à Kinshasa, il y a à Paris, je viens de Congolo, au nord Katanga.
Oui.
Les produits qu'il faut pour battre la malnutrition, nous les avons. Et c'est comme la connaissance est étalée par terre, par des livres. Les graines de soya, moi je les ramasse. Les graines de millet, je les ramasse. Les graines de maïs, je les ramasse. Même d'arachide pour planter. Donc, on ne peut pas vivre la malnutrition au Congo. Ça, en tout cas, c'est nous-mêmes qui voulons ça. Puisqu'on peut, les parties de terre sont là, vous pouvez planter. Vous pouvez venir chez moi ici à Kimwenza, au numéro 5 Baoula, vous trouverez que j'ai planté, mon fils qui est là, est en bonne foi, il ne peut pas souffrir de la malnutrition. Mm-hmm. Je suis enseignant avec le maigre salaire, mais on ne peut pas souffrir de la malnutrition. Ce n'est pas le problème de salaire, c'est le problème d'homme. Pour être en bonne santé, c'est non. Vous condamnez l'État pendant que votre enfant est en train de souffrir vraiment, Pierrot. Ce n'est pas concevable.
Mmh.
On ne peut même pas dire, non, nous sommes assis sur quoi. C'est la responsabilité de chacun de nous. Et celui qui doit prendre la responsabilité, c'est lui-même qui est souffrant, qui connaît qu'il a beaucoup d'enfants. Il cultive il sème le maïs, il récolte les graines. Nous les avons ici. Les amarantes, on peut les planter et obtenir. Donc, il sera informé seulement si il y a des gens qui sont sous-informés. Ils seront informés par à fois la radio Okapi, dans les médias et les voisins aussi, on s'informe. Donc, il y a le problème, c'est lequel? C'est-à-dire, il y a le fainéantisme. Puisque le maïs, tout, on peut les ramasser. Que chacun prenne la responsabilité, se prendre en charge. Voilà ma contribution, Pierre.
Merci beaucoup, Jacques. Vous êtes enseignant, vous êtes à Kimwezi, ici à Kinshasa. Vous avez fait de l'expérience vous-même. Vous dites, les, pour vous, c'est les problèmes d'hommes et le fainéantisme. Hein, parce que voici ce qui a été dit par notre ami Mardoché de Moujmaï, des jeunes gens qui s'entassent dans le carrefour, qui crient à longueur de journée. On le voit ici à Kinshasa. Ça dit qu'il y a pas cette politique définie pour les récupérer, par exemple, les résorber, bien sûr, dans l'agriculture, mais tout ça, c'est un problème d'homme. Mais il va aussi se poser ce problème de l'espace. C'est vrai que dans nos milieux, dans nos villages, les gens peuvent avoir de l'espace, mais il y a aussi ces problèmes qui se posent à Kinshasa. Les gens, ils sont partis de Kananga, de l'Équateur, de partout, ils sont venus s'installer à Kinshasa. Où vont-ils aujourd'hui se mettre à cultiver? Il y a ces problèmes des carrés miniers, il y a ces problèmes de concessions et de fermes à travers le pays. Je crois qu'au niveau du pouvoir public, on peut définir ce qui peut être fait pour permettre au moins que les gens puissent se retrouver aujourd'hui dans l'agriculture. Parce que quand on écoute les uns et les autres, on pense que la solution pour ces problèmes de la malnutrition ne peut venir que de l'agriculture. 081 890 63 15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. 081 890 63 15. Nous parlons aujourd'hui des mesures qu'il faudrait prendre dans notre milieu pour faire face au problème de malnutrition. Et nous avons en ligne notre invité, Dr Mukalinga Richard, qui est spécialiste en santé publique, entrepreneur agricole dans l'option biotransformation des produits alimentaires.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Docteur Richard, vous êtes sur le terrain, vous travaillez dans ces domaines. Vous avez suivi les inquiétudes de nos auditeurs, bien sûr, qu'il y a ces responsabilités partagées auprès de la population et aussi les pouvoirs publics. Mais y a-t-il aujourd'hui des efforts, des synergies sur terrain, au ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé? Y a-t-il des actions comme ça qui sont menées? Vous êtes dans vos bureaux, y a-t-il des actions sur terrain où vous y allez, la conjugation de ces efforts pour permettre à ces que la population soit aidée, parce qu'il y a ces problèmes de l'exode rural, ceux qui partent de nos villages, parce qu'il n'y a plus de vie là-bas. Ils voudraient bien venir s'installer dans la capitale, dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Ils fuient l'agriculture parce qu'il n'y a pas peut-être l'encadrement pour eux. Il y a tous ces problèmes qui se posent. Y a-t-il aujourd'hui des synergies, un travail qui s'est fait sur le terrain, dans l'ensemble entre tous ces différents ministères, pour faire face à ces problèmes de malnutrition?
Oui. À ce sujet, je peux dire qu'il y a des synergies, mais de façon timide. Je donne le premier exemple. Je salue le professeur Jacques Paulus du département de l'environnement de la faculté des sciences de l'UNIQIN, qui a mis sur son dos la promotion de la production des ignames. Et à partir de ce que le ministère de l'Agriculture a prononcé comme mot d'ordre de l'année 2012, et ce sera peut-être l'année 2013, l'année des ignames. Mais combien de gens ont suivi? C'est ça. Moi, je flirte avec son ONG pour que je tire de lui les informations nécessaires pour que le ministère de la Santé publique ou le secteur de la santé en profite. Parce que les ignames sont plus riches que le manioc. Mm-hmm. Mais combien de gens suivent? C'est ça le problème. Deuxième chose, ça c'est un témoignage personnel. J'ai glissé ou j'ai remis au docteur Mukengeshaï, directeur à la 5e direction nationale donc des soins de santé primaire, un document lorsqu'il fut directeur du cabinet du ministre Mopipi, que je salue. Dans ce document, j'avais étalé mon expérience personnelle de terrain et j'ai qualifié ça d'approche intégrative, active et participative à tous et pour tous dans l'intérêt de résoudre rapidement les problèmes de santé. Et dans ce document, j'ai démontré qu'il y a moyen de transformer nos centres de santé en centre de développement communautaire pour la promotion de la santé. C'est-à-dire, ceux qui sont là, ils vont parler de la santé avec tout ce que nous connaissons, médicaments, etc., vaccins, etc., mais aussi des intrants agricoles, pour que la personne qui vient avec son problème de santé ne rentre pas seulement avec une ordonnance, mais il peut rentrer avec de la semence agricole, par exemple, les graines de soja, etc. Parce que moi-même, j'ai expérimenté, par exemple, à l'hôpital de Lukula, la production de soja. J'ai laissé 4 hectares de soja là-bas. Le terrain m'a été confié par le bourgmestre Batoubenga, que je salue, et son agronome de commune, M. Ngueni, nous avait épaulé. Mais j'étais combattu. J'étais combattu de ça, c'est quel docteur? Qu'est-ce qu'il nous apporte comme habitude? Même quand j'ai fait construire, et j'ai construit avec le personnel de l'hôpital, nous tous nous avons construit, nous avons fabriqué les briques. Un bâtiment de 14 chambres privées avec les recettes de l'hôpital, et nous avons été épaulés par le feu gouverneur Bayingana. Nous avons été combattus, on dit, mais qu'est-ce que cet homme amène? Mais c'est l'approche intégrative, active et participative. Il ne faut pas rester spectateur, commencer à crier, État, venez-nous en aide. L'État, c'est qui? C'est celui qui a les responsabilités. L'État, c'est qui? C'est la population qui côtoie celui qui a les responsabilités. C'est nous tous. Il ne faut pas attendre. Sinon, on attendra qui? On attendra quoi? La main du ciel. C'est ça le problème avec nos mentalités qui sont restées encore rétrogrades, en train d'attendre le papa ayez, vous allez filer. C'est ça le problème.
Voilà, docteur Richard, mais il y a ces problèmes de changement d'habitude alimentaire. Vous avez beaucoup insisté, vous dites aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés. Nous, notre produit de base, c'est le foufou à base de manioc et maïs. Si sans ces foufous, on ne vit pas. Et des fois même, quand quelqu'un mange autre chose, aujourd'hui, on dit non, mais nous n'avons pas encore mangé. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore mangé la boule nationale. Voyez un peu ces conceptions. Quand on mange le riz ou haricot, on mange des lignames, l'enfant répond non, non, on n'a pas encore mangé. Pour lui, manger, c'est quoi? C'est manger la boule nationale. Voilà un peu comment faudrait-il aujourd'hui travailler dans les conscients, n'est-ce pas, du Congolais pour comprendre que les habitudes du Katanga peuvent être copiées aussi, alimentaires bien sûr, par le Kassai. Le Kassai peut copier, c'est de l'Équateur, c'est qu'on mange dans les Bandundu, peut-être manger aussi. Comment on peut faire cette interpénétration des consommations de nourriture qui peuvent aussi amener un plus dans l'organisme alors?
Oui, ça c'est un grand problème fondamental. C'est là où je dis que l'école a échoué au Congo. Et puis, les partis politiques ont échoué au Congo. Pourquoi? Comment un professeur d'université qui a un diplôme universel, c'est-à-dire qu'il peut aller avec son savoir en Corée, en Chine, au Vietnam, etc., en Argentine, dispenser son savoir, peut se dire devant un réalité, je suis Mouroba, je ne mange pas ça. Je suis Moutango, je ne mange pas ça. Je suis Moumbeko, je ne mange pas ça. Je suis Moutetera, je ne mange pas ça. C'est là où l'école a échoué. C'est là où aussi les partis politiques ont échoué. Dit grand parti national. À ce grand parti national ou grand. Les gens qui sont là-dedans, qui disent aux Congolais, voici le but pour vous, devant les denrées alimentaires, ils disent, ce n'est pas pour ma province.
Voilà. Oui, voilà. Docteur Richard, déplacez-vous un tout petit peu parce qu'on a des soucis avec votre ligne. Il est temps qu'on puisse écouter les deux derniers auditeurs. On va revenir à vous pour la conclusion. Pendant que vous repositionnez un tout petit peu, on écoute Hervé qui est à Lubumbashi, Itongo à Dungu. On va revenir à vous pour la conclusion. Hervé, vous êtes avec nous. Bonjour. Hervé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Nous tendons vers la fin de cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres plusieurs propositions pour faire face à ces problèmes de malnutrition. Quel est votre point de vue?
En fait, pour moi, je pense que pour résoudre ce problème, il faut mener des actions concrètes dans tous les secteurs, c'est-à-dire adopter une démarche à l'intention des quatre groupes. La jeunesse, la fonction publique, les acteurs économiques informels, l'exploitation de l'industrie. Ça veut dire révolutionner l'industrie en intégrant les jeunes générations au cœur de la stratégie de développement durable. Dans ce contexte-là, on sera en mesure de parler de problèmes qu'on a par exemple de malnutrition. Je prends l'exemple d'initiative adoptée par le gouvernement provincial ici au Katanga. Celui initié par le gouvernement provincial que toutes les entreprises doivent faire l'agriculture. Ça facilite l'accès aux ressources agricoles, donc, ce qui permet d'améliorer l'accès aux ressources agricoles par les habitants de la ville. Stabiliser le cadre macroéconomique en accordant la voie nationale à l'évaluation des produits agricoles. Ça permet d'améliorer la compétitivité de notre industrie.
Merci
améliorer
beaucoup,
le cadre social et l'environnement pour créer un cadre propice au développement, aux investissements et dans le secteur en vue de relancer la croissance en RDC.
Voilà, merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup Hervé. Vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui privilégier quatre axes pour vous, la jeunesse, la fonction publique, les opérateurs économiques, augmenter aussi la production. Il faut viser à tous ces groupes, bien sûr, en définissant une politique claire, comme vous l'avez dit, ce qui s'est fait au Katanga, les entreprises, par exemple, qui exploitent le secteur minier ou pétrolier, ceux qui sont dans la foresterie, ces entreprises doivent avoir au moins un champ, que ce soit des maïs, des nyams, n'importe quoi, des manioc, pour permettre à ce que dans le milieu où ils travaillent, s'ils ont le champ, et ce champ peut permettre à ce que la population du milieu puisse avoir accès à la nourriture. Nous allons terminer avec vous, Itongwa, vous êtes à Dungu en province orientale, bonjour. Itongwa, bonjour. Voilà, on a perdu Itongwa de Dungu en province orientale. Nous allons revenir à notre invité pour conclure cette émission. Je crois bien, docteur Richard, hein, les uns et les autres ont présenté ces tableaux des responsabilités partagées entre le pouvoir public, entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture ainsi que la population elle-même. On revient à vous parce qu'il faudrait conclure aujourd'hui. S'il faudra avoir des actions concrètes entre tous ces groupes qui sont concernés dans la lutte contre malnutrition, quelle devait être leur responsabilité? Le pouvoir public, le ministère de la Santé, celui de l'Agriculture ainsi que la population elle-même. Cela vous permet de conclure cette émission en 2 minutes et demie.
Oui, merci beaucoup. Voici ce que j'ai remarqué. Lorsque je suis allé à une évaluation sur l'administration de la vitamine A en RDC, c'était à l'hôtel Vénus. Il n'y avait que le corps médical qui faisait l'évaluation.
Mm-hmm.
Le ministère de l'Agriculture n'était pas là. Le ministère de Développement Rural n'était pas là. Mm-hmm. Le ministère de Genre, Famille, etc. n'était pas là. Comment on peut décider sur l'avenir des enfants de 0 à 5 ans en rapport avec l'administration de la vitamine A avec seulement la panoplie de ceux qui manipulent seulement les blouses blanches et les stéthoscopes? C'est ça le problème. Il faut que les gens se mettent autour d'une table dans une approche qu'on appelle, que moi j'ai appelée approche intégrative, active et participative, par tous et pour tous, pour décortiquer les problèmes de santé. C'est à travers cette approche qu'on peut dégager les pistes de solutions qui sera donc opposable à tous. Voilà la petite conclusion que je peux tirer.
Oui, mais il y a aussi ces propositions de notre ami Hervé de Lumbashi qui est revenu par rapport aux responsabilités des entreprises qui exploitent dans les différents secteurs au pays. Nous en avons en télécommunication, en exploitation minière et forestière. Lui, il pense qu'il faudrait aujourd'hui, sur le plan social, demander à ces entreprises, chacune, d'avoir au moins un champ dans le milieu. Ça peut résoudre le problème parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent le faire.
Oui, ça, c'est génial. Mais ça peut se faire au niveau de deux volets. Au niveau du personnel lui-même, comment ils peuvent s'organiser et produire sous le label, par exemple, XY entreprise de télécommunication.
Mm-hmm.
Et puis, l'initiative peut venir aussi des patrons de l'entreprise pour soulager la population dans leurs carences alimentaires. Vous savez que les carences alimentaires sont à la base des mauvaises performances au niveau des prestations des agents dans leur entreprise.
Voilà, nous allons terminer cette émission avec le dernier auditeur. Merci beaucoup, docteur Richard, de nous avoir accordé de votre temps.
Je vous remercie.
En une minute et en 30 secondes.
Vous m'avez aidé à aider la République.
Merci beaucoup. En 30 secondes, on va écouter Joseph, qui est infirmier à Durba, en province orientale, qui vient de nous appeler. Joseph, vous êtes avec nous. Bonjour.
Et bonjour, bonjour, le monsieur Pierrot. En tout cas, nous sommes déjà en terme de notre émission. Alors, ce que je peux compléter, c'est ainsi que, en tout cas, ce que nous venons de constater, surtout dans notre milieu de territoires de Ouattara, précisément à Pekoma, parce que moi je travaille là-bas, les problèmes, les prises en charge, parce que ici, on ne respecte pas le planning familial. Vous voyez que la personne peut peut-être avoir au moins 12 enfants, mais pour les prises en charge, ça devient une équation grave. Vous voyez que, et puis, ce sont des gens, le même gens-là qui ne veulent pas cultiver, et puis ils préfèrent beaucoup travailler dans des carrières, et puis ils rentrent avec un manque, bon, qu'est-ce qu'ils savaient faire? La personne ne mange pas bien, mais vous voyez que cette période vraiment de la malnutrition, c'est très catastrophique, surtout chez chez nous ici, il faut seulement sensibiliser. Et d'abord, les relais communautaires, il faut informer la population comment nous devons se prendre en charge pour notre nutrition. En tout cas, merci, je vous remercie.
Merci beaucoup, notre ami Joseph. Vous êtes à Durban, vous êtes infirmier sur place. Plusieurs propositions dans cette émission consacrée à la lutte contre la malnutrition. Aujourd'hui, je crois bien, les choses ont beaucoup évolué par rapport à la dernière émission, parce que les responsabilités sont partagées aujourd'hui, mais on peut retenir le mot clé, c'est l'investissement dans l'agriculture, la sensibilisation, le changement des habitudes alimentaires, mais il y a aussi ces problèmes de la natalité responsable qui a été évoqué par plusieurs de nos auditeurs. Nous vous disons tous merci, vous avez été très nombreux à être avec nous dans cette émission, y compris notre invité Dr Mukalinga Richard, qui est spécialiste en santé publique, mais qui est aussi opérateur agricole dans l'option biotransformation des produits alimentaires. Nous vous disons tous merci de votre sympathique attention et surtout du temps que vous avez accordé à Radio Capi et parole aux auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Nous prenons rendez-vous demain mardi à 11h03 heure de Kinshasa pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Lancé il y a près de 2 mois à Kinshasa, l'opération des payes des fonctionnaires agents de l'État ainsi que les enseignants par voie bancaire appelée communément bancarisation de la paye a presque atteint toutes les provinces de la RDC aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver avec vous demain pour faire les points. Comment se déroule cette opération dans votre milieu? Vous pouvez déjà vous inscrire à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à Titi Mputu, Lydie Kachala, Jean-Claude Nsiala qui nous ont aidé à produire cette émission qui a été supervisée par Nicole Ngaka. Vous allez la retrouver en rediffusion à 20h03 heure de Kinshasa, mais également sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir, mais surtout le programme continue sur Radio Capi.